Attention,
l'ambiance est bonne et le café est bon.
Ah, ça c'est vrai, on est très bien reçus.
Bienvenue, nouveaux compagnons.
De la musique, du documentaire, etc.
20 minutes, écoute notre émission.
Attention, hommage spécial dédicace. Micro-sillon.
Bienvenue pour cette émission du mois de janvier 2020. Bonne année 2020, bonne santé à tous. 2020, l'année du changement, d'ailleurs, nous déménageons. Retrouvez-nous à partir du 20 janvier au 1 rue Francis Lopez.
Oh non, janvier 2020, et en plus ça tombe le jour de mon anniversaire, le moment où on va nous micro si on me lâchera. Mais bon, la musique que l'on entend ici est la musique de Zirgle and the Obscure Wave, Saturn.
Cette émission commencera par le 7e épisode de Jean-Pi et le bébé singe, saga radiophonique de votre ami Rodolphe.
Ensuite, il y aura l'épisode 37 de Vlad le Barbare. Tabassage, ce courage.
Il va y avoir de l'action, quoi.
Ouais.
Interview de Betty, l'organisatrice du festival Andiamos, un événement social et en rapport avec le handicap qui est à sa 9e édition, qui aura eu à Muret. Voilà, donc par reportage 31.
Ensuite, je vous retrouve pour le deuxième épisode, la deuxième partie de l'émission Projection consacrée aux acteurs de doublage.
Projection. Ah ouais, c'est vrai. Ensuite, il y aura l'épisode numéro 4 de Halte au mal-être, l'émission de Roger sur les dangers du suicide.
On continue avec Vivre en le disant de Pierre Boutonnet. Un reportage sur la question du handicap psychique et du travail.
Donc ça vient en le disant. Et...
Ensuite, interview d'une performeuse air dancer au festival Groland, le Fifi Gros, par reportage 31.
Ça danse sur du vent. Ah oui, c'est vrai. Ensuite, il y aura l'épisode numéro 35 de Néophile au Moé, perte d'une moralité universelle.
Bonne écoute. Si vous arrivez au bout de l'émission, on vous conseille de vous reposer quand même. Hein.
Mais qu'est-ce qu'il dit, le Eric?
Et encore,
bonne année, les amis, bonne année à tous.
Et adios, la rue François Collignon.
Une année correcte, je présume.
Chers amis, bienvenue dans l'histoire de Jean-Pi et le bébé singe, une histoire racontée en 25 épisodes par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand, paru en 1963 aux éditions Hachette. Cette histoire, entièrement enregistrée sur bande magnétique, a été réalisée avec une musique sur pick-up stéréo tourne-disque. Petit détail, à l'écoute, si vous entendez un récurrent, c'est qu'il s'agit bien d'une fabrication artisanale. C'est le raccord de bande cassette. Réalisé en 1985 et remasterisé en 2018, de 63 à 2019, 56 ans plus tard, l'histoire est toujours là. Résumé général. Comment Jean-Pi, ayant récupéré par hasard un petit chimpanzé, est appelé à le faire adopter, non sans mal, par les habitants du pays des enfants. Aujourd'hui, épisode numéro 7, Jean-Pi est accusé.
résumé de l'épisode précédent, Jean-Pi essaye de cacher le petit chimpanzé, mais ce dernier est toujours recherché. Comment cela va-t-il tourner ?
Si ses amis ne gardaient pas le secret, dans les rues de Pont-la-Fleur, en effet, on ne parle plus que du fameux monstre noir, qui est devenu maintenant un être terrifiant. Certains affirment qu'il a des ailes, d'autres qu'il s'attaque à de pauvres bêtes et les dévore. Nombreux sont ceux qui croient l'avoir entrevu, et ils font son portrait avec beaucoup de détails. Sur la place du marché, un groupe d'enfants est réuni devant l'affiche qui reproduit la déclaration du maire. Jean-Pi s'approche et la lit. Habitants de Bourg-la-Fleur, hier matin, notre paisible cité a été troublée par un événement scandaleux. Le magasin de fruits et légumes tenu par notre sympathique concitoyenne Lisette a été ravagé par une espèce de démon qui a échappé à toutes nos recherches. Ceux qui abriteront le coupable seront punis de prison et d'expulsion. Nous ferons l'impossible pour capturer ce mystérieux malfaiteur et rétablir la paix. La police est déjà sur une piste. Courage et confiance. Vive pour la fleur, vive le pays des enfants. Signé Antoine Gaudis, maire.
Comme c'est curieux, murmure une voix à côté de Jean-Pi. Il se retourne et aperçoit Gontran.
Gontran n'est pas un ami. La semaine dernière, Prince, le cheval de Barbara, entraîné par Jean-Pi, a battu à la course l'ancien champion Zéphir, un cochon élevé par Gontran. Mais ça n'est pas tout. On a convaincu Gontran de tricherie, car il avait fait piquer la pauvre bête par une guêpe. Alors, le cochon a été enlevé à sa propriétaire et confié à la bonne mine.
Qu'est-ce qui est curieux ? Demande Jean-Pi. Eh bien, cette histoire de monstre noir. Jusqu'à présent, il ne se passait rien de semblable chez nous. Mais tu arrives clandestinement, comme ça, sans autorisation, et aussitôt, il se produit des choses bizarres.
Quoi ? Tu m'accuserais !
Oh non, non, je ne t'accuse de rien. Je constate simplement. Tu arrives ici et tout de suite, la paix est troublée. Plusieurs enfants protestent, se mettant du côté de Jean-Pi.
Tu dis ça parce que Prince a battu ton cochon !
Crie une fillette à Gontran. Tricheur ! Lui lance notre enfant.
Les jumelles, Reine Claude et Mirabel, prennent également le parti de Jean-Pi.
Alors Gontran s'éloigne en haussant les épaules. Moi, je lui flaire, affirme-t-il en ricanant. Il n'y avait pas de monstre à Bourg-la-Fleur avant l'arrivée de cet étranger.
Le monstre, c'est toi ! Lui crie Mirabel indigné. Jean-Pi est un peu rassuré de sentir que la plupart des habitants le soutiennent, mais d'un autre côté, il est inquiet pour Babylas, en effet. Quel sort lui réservera-t-on si on le capture ? Et ne l'accusera-t-on pas, lui, le pauvre Jean-Pi, d'avoir poussé ce chimpanzé à faire des bêtises ?
Il accompagne les deux jumelles jusqu'à leur magasin. Elles tiennent une petite confiserie à l'enseigne du galopin gourmand et leur achète quelques bonbons. Puis, il se dirige vers le terrain d'entraînement où il retrouve Papa.
La journée se passe bien.
Jean-Pi oublie un peu ses soucis. Son cheval Prince fait des merveilles et tout le monde félicite Jean-Pi pour ses prouesses de cow-boy.
Barbara semble très contente de lui. Il espère que s'il a encore quelques ennuis, elle le tirera d'affaire.
C'était Jean-Pi et le bébé singe, raconté par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand. Chers auditeurs, pour la suite, rendez-vous le mois prochain, même heure, même fréquence. En attendant, gardez votre âme juvénile. À bientôt!
Et à l'intérieur.
C'est un peu différent. Une grosse.
C'est évident.
Oh oh, prends ça. Nouvel épisode de Blague Barbare. Blague Barbare.
Épisode 37. Tabassage. Ce courage. À l'épisode précédent, l'équipe était arrivée à Portolan et s'était faite alpaguer dans une souquette d'enquête consistant à retrouver de l'argent qui s'était fait voler d'une cellule de haute sécurité. Le gros de l'équipe a investi les égouts, croyant que le voleur était entré par un trou dans la cellule que Rock avait arrondi au phaser, mais ils n'ont rien trouvé. Heureusement, Utu et Edelsilja étaient restés derrière à surveiller et ont découvert le coupable, un des employés de la banque, dont ils ont retrouvé le symbole de porte-clés dans la cellule. Donc on en était à...
Brigade Mondaine, flèche épusculée.
Aimerait Jean-Jacques Bobillas, je vous arrête pour crime.
Flèche épusculée. Pauvre donc. Noobscu. Va en nom létal, point haut de coup, faut qu'il vive. Il faut qu'il vive.
Mais c'est quoi ces bruits?
Un nain rentre dans la salle et voit Edelstija et un nain fumant saucissonné dans une corde, des explosions derrière, et Utu est devant, annonçant:
on a trouvé le voleur! C'est lui qui a probablement simulé la brèche! J'ai trouvé ça dans sa cellule! Et Edelstija m'a dit que ça appartenait à son porte-clés, et il ne l'avait effectivement plus.
Ciel, je suis
Vlad le barbare bondit du trou, accompagné par Rock et les autres.
Y a pas d'issue? Hein? Oh, bien, Utoé, tu as trouvé le coupable.
J'ai trouvé ça dans sa cellule. Et Edelstija a dit que ça appartenait à son porte-clés, et il ne l'avait effectivement plus.
Il a simulé la brèche, tant d'aller perquisitionner son cellule, l'amener en prison et choper notre récompense. Allons tout expliquer à ce bon Barend.
Alors, comme ça? Ok, merci, mais la prochaine fois, tentez de ne pas exploser le coupable, même si c'était non létal. Les explosions sont trop liées à la mort.
Nishigaki n'est pas si maligne que ça.
Mais quoi?
Des explosions, Loraz. On vient de notre plan.
S'asseoir? Bon, c'est la première fois qu'une telle chose arrive. Nous n'aurions jamais pensé qu'un membre de la maison soit capable de trahison. J'espère que cette erreur ne sortira pas d'ici. En gage de compassion et de remerciement, voici 50 pièces d'or chacun. Ainsi qu'une lettre indiquant que vous serez traité comme il se doit si vous désirez louer nos services. Vous serez toujours les bienvenus chez nous.
Vous gagnez 100 XP.
Ainsi, l'affaire s'est bien terminée. L'équipe a mérité une nuit de repos. Par contre, l'après-midi, une nouvelle quête leur tombe sur l'orable. Ils étaient en train de finir de manger leur repas de midi, en train de regarder le ciel où des engins volants faisaient des acrobaties. Et l'un des engins se crache.
En dire, je te prends.
Hein? Pourquoi?
T'as vu le vaisseau qui s'est crashé, Rock? Tu pourras utiliser tes rayons de froid pour éteindre les flammes. Vu que tu es tout petit, en dire, tu pourras passer dans l'espave et soigner quiconque aurait survécu à l'intérieur. Je vais essayer de t'envoyer en te propulsant.
Wow!
J'espère que ça vous donnera bonne réputation, vous les câlins. Il paraît que vous débarquez en Eberron.
Bonne idée!
Alors que Rock soupire en lamentant silencieusement sa sieste, Vlad utilise son légendaire pas de course de barbare et son talent acrobatique pour aller à 8 mètres par seconde sur les pavés, Rock passant Warp 2 pour les suivre. L'engin ressemble à un bombardier biplace des années 40. Le pilote est gémissant et au milieu de flammes, et le copilote semble hurler. Coup de taille, mes veines!
C'est quelque chose! Je suis juste blessé! Mais mon ami est bloqué dans la carlingue!
Dis le pilote avant de s'évanouir.
Rock, tire des rayons de froid pour éteindre les flammes pendant qu'Andir lui lance vigueur mineure. Je vais m'occuper du type bloqué.
Hurle Vlad alors qu'il envoie Andir sur le type.
Vigueur mineure.
Le feu commence à être entamé. Vlad arrive au sujet et... voit le copilote incarcéré. Il voit qu'un bout du siège du pilote est enfoncé et bloque la jambe du copilote. Et tente de jammer une balaxe pour le bloquer. Il n'y arrive pas encore. Rock tire des lasers, mais se tombe de fréquence et lance des rayons de feu à la place, empirant la situation.
Passe-moi une de tes balaxes.
Oups.
Bonjour, vous êtes sur Micro-Sillon, Nous avons l'animateur Sylvain et son compatriote Tony. Je voudrais souhaiter la bonne année à nos auditeurs et nos auditrices. Vous avez un nouveau morceau. Il y a trop de rappeurs qui jouent les Bioman.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent. Bonjour, me voici avec l'organisatrice du festival Andiamos, dont c'est la deuxième édition où je viens, mais c'est plus de la deuxième édition. C'est la neuvième édition, donc je vais la laisser se présenter.
Bonjour, ben voilà, moi je suis Betty, je suis la présidente de Festival Andiamos depuis 9 ans et tous les ans ça va de mieux en mieux. Nous cherchons, si c'est possible, des bénévoles pour pouvoir avoir un peu du sang frais, pour pouvoir des fois des idées comme ça.
Que pouvez-vous dire sur ce festival qui lie l'artistique et l'handicap ?
Déjà, ce festival-là, c'est justement mettre les gens en situation d'handicap, les valoriser, être surtout des artistes à temps plein. Et pour eux, c'est très valorisant, c'est très important. Donc, c'est des choses qu'ils font toute l'année, hein, qui répètent toute l'année avec leur centre. Et quand ils viennent ici, ils font leur spectacle. Et ils sont toujours très heureux de venir.
En termes de soutien que vous pouvez avoir, quels sont-ils ?
Alors le soutien, c'est surtout bon vouloir. Parce que si nous avons quand même des personnes, des partenariats comme l'Erasme qui nous aide avec des bénévoles. Le lycée de Riom, le LEP, qui eux s'occupent de toute la restauration, tout ce qui est maquillage, tout ça. Et qui sont là aussi, ils sont nos partenaires depuis plusieurs années. On a surtout la mairie de Muret qui nous aide financièrement cette année. Ils nous ont aidés financièrement et surtout qui nous aident tout le matériel et les ouvriers de la mairie qui viennent monter les tentes, préparer tout. Et c'est déjà un gros investissement.
L'année dernière, vous avez pu avoir un chanteur, je crois, je ne sais pas s'il est venu, j'ai pas eu l'occasion d'être à la soirée. Mais que pouvez-vous en dire ?
Alors, Kali, non, il n'est pas venu, c'est le parrain, mais il n'est toujours pas venu au festival. Là, par contre, l'année dernière, on a eu des groupes qui ont fait un concert, des concerts bénévolement, qui était super. Ce sont des semi-professionnels qui sont venus pour organiser ça. Mais manque de peau, ça n'a pas trop marché parce que c'est mal tombé. Il y avait Méditerranéo entre-temps. Donc c'est dommage, c'était pour aider l'association. Mais voilà, donc ça n'a pas bien marché. Par contre, l'année prochaine, c'est la 10e édition. Et là, on va faire 2 jours de festival. C'est-à-dire, on va faire un festival pour les centres en situation de handicap, plus un concert où il y aura justement des groupes et on le fera à l'extérieur.
Il y a une course qui se monte pour soutenir le festival Andiamos.
Tout à fait. C'est Frouzens Action qui vont faire une course et ils nous soutiennent depuis... toute l'année là, qui nous soutiennent.
Frouzens Bonne Action, que j'avais eu l'occasion d'interviewer l'année dernière, faire un lien avec le handicap aussi, je crois.
Oui, mais là, tout le monde peut s'inscrire, mais ce n'est pas forcément que des personnes en situation de handicap. Il y en a. Donc, c'est ouvert à tout le monde.
Mais merci, si vous avez quelque chose à ajouter.
Non, rien à rajouter. Mais cette année, c'est encore un succès et on espère continuer. Voilà.
Un petit mot sur le terme Andiamos. Pourquoi ce nom?
Alors, c'est un petit clin d'œil. C'est H en handicap et Andiamos, ça veut dire allez, on y va. On s'est lancé et ça a été comme ça. Voilà.
Eh bien, on continue alors, on y va.
On y va. Allez, on y va et encore plus fort que d'habitude. Voilà.
Merci, au plaisir, à la prochaine.
À la prochaine alors.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent.
Alors donc, qu'est-ce que tu vois ?
Je vois des stries noires, des micro-sillons.
Des micro-sillons ?
Oui, avec l'arcane du monde et du fou, ça doit signifier la création sonore.
Ça crée des sons ! Temps de voir ce que le futur nous réserve !
Projection. Grand public. Mainstream. Cinéma commercial. Underground. Film d'auteur.
Le cinéma de genre. Le cinéma de genre.
fantastique, la science-fiction, la fantasy et autres cinémas de l'imaginaire, comme les films d'horreur, comme les films d'épouvante. Projection. Deuxième partie de l'émission Projection consacrée au doublage. Retrouvez la première partie dans l'émission du mois précédent sur le site de Microsillon.
Et est-ce que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer des acteurs de doublage ?
Oui, j'ai eu cette chance. Ah. Alors, notamment, surtout au Toulouse Game Show, le fameux Toulouse Game Show qui a lieu tous les mois de décembre. Et puis au Spring Break, au Toulouse, qui maintenant ça va s'appeler le Popcorn en avril. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer les acteurs de doublage. La première que j'ai rencontrée, les deux premières que j'ai rencontrées, c'est Benoît Lehmann qui double Morgan Freeman.
Ah, ok.
Et Kélian Blanc qui double Daniel Radcliffe dans les Harry Potter.
D'accord.
Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Patrick Poivet deux fois en 2017. Mmh. J'ai également rencontré Brigitte Lecordier qui double Sangoku jeune, enfant. Sangoku dans Dragon Ball Z.
D'accord.
Sangoku dans. Et puis qui double d'autres personnages. Elle fait souvent des voix d'enfants. Alors, il faut savoir un petit détail. Autrefois, ça se fait moins maintenant. Mais pour les voix d'enfants, pour doubler des enfants, dans les dessins animés ou dans les films, on utilisait des voix de femmes. C'était des comédiennes. D'accord. Par exemple, dans Les Mystérieuses Cités d'Or,
ouais.
La série animée des années 80, Esteban, le héros, était doublé par Jackie Berger, ouais. Une femme. Qui a aussi doublé par la suite d'autres personnages, bien sûr, et puis qui double dans Les Guignols aussi, qui fait des voix dans Les Guignols. Également, Odile Schmidt, que j'ai rencontré en décembre dernier, qui double Tao dans La Mystérieuse Cité d'Or.
D'accord.
Qui a modulé sa voix pour qu'elle corresponde au personnage. Et qui double également Eva Longoria dans Les Desperate Housewives, notamment.
D'accord.
Le jour prévu était justement hier. Alors quand je t'ai vu débarquer hier avec les autres, j'ai su que c'était toi.
On essaie d'avoir les mêmes attitudes. Par exemple, pour Desperate Housewives, Eva Longoria, c'est ce que je dis toujours, je m'imagine dans ce petit tailleur, sur talons, les talons comme ça, et puis en train de marcher, cul serré, très, très pétillante et tout. Et hop, ça donne un rythme comme ça. Quand on marche, ça fait... Et ça change en même temps la voix, quoi. On n'avait pas l'intention de t'en parler, mais voilà. Quand t'étais petit, je t'ai inscrit dans une agence de bébés mannequins pour des castings. Et on t'a choisi pour faire ces photos de pub. Mais ensuite, j'ai vu un reportage sur les enfants stars qui partent en vrille. Et ça m'a fait flipper, alors je t'ai tout de suite désinscrit.
J'ai vraiment appris mon métier de comédienne avec le doublage. On ne peut plus jamais parler faux. Il faut aller tellement vite, il faut avoir une telle oreille, et il faut pouvoir se mettre tout de suite dans n'importe quelle situation que plus jamais on parlera faux. Et c'est ce qu'on nous demande dans le métier.
Mais elle doublait, et les deux voix d'enfants doublaient, les deux voix féminines doublaient des enfants.
Ok.
De même pour le personnage d'Abdallah dans Les Aventures de Tintin, la série animée des FR3 dans les années 90.
Ouais. Et maintenant, c'est quoi, des vrais enfants alors ?
C'est des vrais enfants, oui, okay. Oui, c'est des enfants. Je pense, okay. Oui, c'est des enfants. Kélian Blanc, il a commencé, il avait 12 ans. Kélian Blanc, quand il a doublé Harry Potter, je crois qu'il avait, peut-être un peu plus âgé. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer Edgar Givry, qui doublait Richard D. Anderson. MacGyver. Et okay. Colonel O'Neill dans Stargate, la série. Qui double également Timothy Dalton dans le premier James Bond qu'il a tourné, Tu n'es pas joué.
Ok.
87.
Ouais.
Et John Malkovich dans Les Ailes de l'Enfer, le film d'action avec Nicolas Cage en 97.
D'accord.
Et d'ailleurs, c'est un acteur de théâtre. Il a joué dans le Dîner de cons, la Tour en Palace Infernale, et puis dans la série H.
Ah, ok.
Ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer en décembre dernier Thierry Desroses, qui double Samuel Jackson, entre autres. Puis Francis Lalanne, en décembre dernier, qui double Quasimodo dans Le Bossu de Notre-Dame, de Disney.
D'accord.
Et qui doublait aussi le tueur en série dans Dragon Rouge, oui. Le préquel du Silence des Agneaux.
Ok, ouais. Et Francis Lalanne, le chanteur
Le chanteur, Francis Lalanne, le chanteur.
Qui fait des doublages aussi.
Qui a aussi fait des doublages.
D'accord.
Ensuite, on peut citer comme voix que... alors, bien sûr, j'en ai rencontré certaines, mais j'aimerais bien en rencontrer d'autres, ça me ferait très plaisir. Mais bon, ça, faut qu'ils viennent à Toulouse ou qu'ils se déplacent. Bon. Si, on peut aussi citer un acteur de doublage qui a pris sa retraite, c'est Roger Carrel.
Ouais.
Roger Carrel, qui est quand même le pape, le dieu du doublage.
Mm-hmm.
Bon, parmi ces doublages, on peut citer 6PO dans La Guerre des Étoiles.
Ah ouais.
Astérix,
d'accord.
Kermit la Grenouille dans le Muppet Show.
Ah ouais.
Dans les Disney, c'est lui qui doublait Persifleur dans Robin des Bois, le serpent.
Okay.
Il double également le serpent K dans le Livre de la Jungle.
D'accord.
Bernard dans Bernard et Bianca. Basile détective privé dans le Basile détective privé de Disney. Et puis Hercule Poirot dans la série joué par David Suchet.
Okay,
et puis Peter Ustinov dans le Meurtre sur le Nil.
D'accord.
Doublé Hercule Poirot ici aussi. Et puis, non, on peut en citer plein. Horace Slughorn, le professeur de potions dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, mm-hmm. en 2009. Wally Gator, le dessin animé. Winnie l'ourson, également, de Disney. On peut en citer, on pourrait en citer plein. Il a doublé après dans des épisodes de Columbo, de l'inspecteur Derrick, et puis plein de... Et il jouait dans la série Arsène Lupin des années 70, le commissaire Garchard.
Ok. Et... Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre l'apparence physique d'un doubleur et l'acteur qui double ?
Des fois oui, des fois non, j'ai envie de dire.
D'accord.
Bon, déjà, quelquefois, on peut se demander aussi, est-ce qu'il y a une couleur dans la voix ?
Ouais.
Est-ce que les acteurs noirs sont doublés forcément par des comédiens noirs de doublage ?
Ouais.
Pas forcément. Okay, Benoît Alleman est blanc. Et il double Morgan Freeman, qui est noir.
Ouais.
Richard Darbois est blanc. Et il double Danny Glover dans L'Arme Fatale.
D'accord. D'accord.
Par contre, Thierry Desroses est métis et il double Samuel Jackson.
Ok. Ouais.
De même que la voix, alors ça c'est plus ancien, de Yul Brynner dans les 10 commandements et dans les 7 mercenaires, était métis et il doublait un acteur caucasien.
Okay,
en plus de doubler Dark Vador en 80 et 83.
D'accord. D'accord.
Pour la petite histoire.
Ouais.
Dans les années 70-80, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs africains. D'origine métisse en France.
Ouais,
donc ils ont pris des acteurs blancs. Maintenant, de plus en plus, ils associent, par exemple, Greg Germain est noir et il double Will Smith.
Okay,
Will Smith, entre autres. Voilà. Pour conclure, c'était Arnaud pour l'émission Projection, un numéro consacré au doublage de films, plus spécifiquement aux comédiens de doublage. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro.
Projection.
Bouchy-bouchy, mich-mich-crocillon.
Mon fillon.
Crocillon.
Tiens, mais pourquoi tu fais pis, Alban ? Ah, d'accord.
Bienvenue à la rubrique Halte au mal-être. Vous écouteriez Popcorn. Si vous n'étiez pas sur la version libre de droit de l'émission. Bonne écoute.
Je suis Roger, je suis président de l'association Halte Mal-être pour la prévention du mal-être conduisant aux gestes suicidaires, principalement chez les jeunes. La dernière fois, nous avons évoqué le pourquoi de cette émission. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles au 06 22 00 75 34. La dernière fois, nous avons vu les facteurs de risque liés au moi physique. Nous allons voir maintenant les facteurs liés au moi comportemental. Le repli sur soi, l'abandon d'activité qui pourtant nous intéressait, le refuge derrière son écran de tablette, d'ordinateur ou de téléphone portable. C'est lié au repli sur soi, car on s'isole physiquement des autres. Les personnes qu'on appelle amis virtuels ne sont pas présents. Les addictions, les dépendances, la consommation excessive de tabac, d'alcool, de drogue, de jeux vidéo, de réseaux sociaux, de jeux d'argent. Il est clair que pour rester un plaisir, une détente, les consommations doivent rester modérées. La drogue doit être bannie. Par exemple, un verre de rosé de temps en temps lors d'un repas, c'est appréciable. Mais une bouteille à chaque repas, par exemple, c'est de l'alcoolisme et ça ne procure plus de plaisir. En ce qui concerne la drogue, pour reprendre les paroles d'un publiciste connu, c'est de la merde. En effet, on parle de shit, dont la traduction est merde. On a aussi trouvé comme additif de l'excrément de chameau. De plus, d'autres additifs sont très dangereux. Par ailleurs, la drogue endommage de manière durable les liaisons neuronales, les synapses. Une consommation excessive détruit progressivement le cerveau. Les jeux vidéo sont des détentes s'ils sont consommés sans excès. Il convient de ne pas y passer les nuits et de ne pas se couper du reste du monde en sautant des repas, par exemple, et en ne répondant plus au téléphone. Quelle importance de ne pas arriver au niveau 2 avant son copain. De plus, il faut parfois payer pour gagner des vies. Il faut faire la différence entre les jeux éducatifs, par exemple où on découvre des pays, et les autres. En ce qui concerne les réseaux sociaux, attention aux fausses informations, les fameuses fake news. Il faut toujours vérifier les informations avec d'autres sources. Je parlerai plus loin du harcèlement sur les réseaux sociaux. Continuons sur les facteurs de risque liés au moi. Citons la discrimination physique. Je suis trop gros, je suis trop maigre, etc. La discrimination sociale. Je suis issu d'une classe sociale défavorisée. La discrimination sexuelle. Je suis une femme. La discrimination due à la maladie ou au handicap. Nous en avons parlé précédemment. La discrimination due à l'âge. Je suis trop jeune. La discrimination raciale, religieuse, due aux idées. Il faut être tolérant. La discrimination due à l'homophobie. L'homosexualité n'est pas un vice. Certaines personnes ont une attirance naturelle vers les personnes de même sexe. Le gouvernement l'a d'ailleurs reconnu, conseillé par des psychiatres, en créant le mariage pour tous. L'homophobie est condamnable. Le moi comportemental, cela peut être aussi des automutilations, comme la scarification, des absences au cours, des mauvais résultats scolaires, des conflits répétés avec les autres. Sans avoir la prétention d'être exhaustif, comme nous l'avons déjà dit, nous avons listé un certain nombre de facteurs de risque liés au moi comportemental. La prochaine fois, nous parlerons du moi psychologique. Merci de votre écoute avec Microsillon.
Je vous le disais que si Roger ne faisait pas une version libre ce mois-ci, je chanterais du Tofuku. Ou Tofi, comme elle s'appelle maintenant. Quelle choupi. Morning, darling, have you ever seen such a beautiful sight creeping up from the darkness of night? Burning bright, bright, illuminate you with light. Sweet retreat, so you see everything with a sing on the streets. Everything that you want us to be. Cause it's good believing, cause being relieving. I never knew that being with you could be so healing.
Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Non, merci.
Non ? Non. Pourquoi ?
Vous êtes vous, quoi ?
Bonjour Brigitte, bienvenue dans cette émission. D'abord, je vais te laisser te présenter, si tu veux bien.
Bonjour Pierre, eh bien, je m'appelle Brigitte, je suis adhérente à Microsillon depuis un peu plus d'un an. J'étais venue à Microsillon pour avoir la possibilité de lire un conte que j'avais écrit et le faire présenter sur les radios de Microsillon.
La première question que j'ai envie de te poser, ce serait, est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce qu'il a fallu pour que tu puisses parler de ton handicap?
Bien, pour parler de mon handicap, il a d'abord fallu que je passe de nombreuses années à faire en sorte d'accepter déjà l'idée que j'étais handicapée, puisque au cours de nombreuses années de mon existence, je n'acceptais pas l'idée du tout de, d'avoir des problèmes psychologiques. Donc je me mettais dans la tête qu'il fallait que je me batte pour entrer en relation avec tout le monde et que pour moi, le fait d'être handicapé, ça n'était pas un état de fait.
Il a fallu d'abord que tu aies les mots pour le dire et que les mots, c'est primordial, si je reprends tes propos.
Bah, avant de donner des mots, dire « je suis handicapé psychique », déjà, il fallait pour moi que je sache exactement ce que voulaient dire ces mots, précisément. J'avais eu dans mon enfance des présences auprès des hôpitaux psychiatriques, donc on me mettait à part, on me considérait comme quelqu'un de complètement différent des autres, on m'avait éliminé de mon travail, donc on m'avait mis dans un lieu qui n'était pas acceptable à mes yeux. J'ai été repoussée et non comprise par ma famille, par mon entourage, par mes amis. Donc je me suis retrouvée particulièrement isolée d'une société qui n'était plus la mienne en fait.
Quand tu as accepté pour toi d'abord que tu as pu comprendre les mots, que tu as pu en parler, mais tu as pu en parler dans quel cadre, avec qui ?
Bien, c'est à partir du moment où j'ai commencé à être en présence de personnes qui étaient handicapées psychiques, principalement quand je suis entrée dans des GEM. Le premier, ça a été Lompier Bonneuil il y a une quinzaine d'années. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais auprès de personnes handicapées psychiques qui avaient des problèmes semblables aux miens. Certaines personnes acceptaient de se reconnaître handicapées. J'ai commencé à les observer, à essayer de comprendre ce que voulait dire ce terme. Et petit à petit, je suis entrée en relation avec des personnes handicapées psychiques qui arrivaient à travers les GEM ou à travers leurs relations extérieures, familiales ou sociales, à se faire accepter en tant qu'effectivement handicapé psychique. Donc j'ai petit à petit, sans vraiment m'en rendre compte, c'était plus ou moins inconscient au départ, j'ai commencé à me dire tu as le droit, toi aussi, tu as le droit d'exister en tant qu'handicapé psychique. Mais il y a peu de temps, ça remonte à juste quelques années, où je me suis dit non seulement je suis handicapé psychique, mais si on ne veut pas m'accepter comme ça, eh bien, tant pis pour les personnes qui ne veulent pas comprendre qui je suis.
Et hormis les GEM, les gens qui fréquentent les GEM, y a-t-il des personnes à qui tu peux en parler ?
C'est-à-dire, je n'ai pas trop envie d'utiliser le mot pouvoir. Je peux, non seulement je peux, mais je veux en parler. C'est-à-dire, il y a effectivement autour de moi des gens qui ne veulent surtout pas en parler, donc il n'y a pas de problème, je ne vais pas aller les harceler et leur dire à tout prix « écoutez-moi ». Par contre, si des gens, effectivement, ne sachant pas ce que veut dire le mot « handicapé psychique », viennent par curiosité ou pour essayer de m'aider à évoluer, alors là, il n'y a aucun problème, j'irai leur expliquer beaucoup de choses qui me touchent personnellement au niveau de ce handicap, pour essayer de les aider à comprendre mieux ce que c'est, pour qu'ils m'aident eux-mêmes à me remettre les pieds dans la société qui, elle, a plutôt tendance à ne pas m'accepter.
Est-ce que tu en parles avec des membres de ta famille ou bien dans un cadre qui va être autre ? Les associations, ça peut être évidemment, on pense au travail, ça peut être dans des réunions publiques. Est-ce qu'il y a des cadres où tu peux en parler ? Où tu en parles ?
Sur un plan familial, c'est pas compliqué. Il n'y a que mes enfants qui m'acceptent telle que je suis entièrement. Je suis leur maman qui a des problèmes psychologiques, psychiatriques. Ils m'ont toujours connue comme ça depuis leur petite enfance. Ça leur a posé des problèmes d'éloignement puisque c'est leur père qui les a élevés et non pas moi, depuis un âge assez jeune. Mais ils ne m'ont jamais rejetée. On a toujours une relation très importante. On est vraiment, on se contacte toutes les semaines. Quand j'ai des choses à leur dire et à leur demander, c'est à eux que je m'adresse et non pas au reste de ma famille. Ils me connaissent par cœur et ils savent très bien que quand ils ont quelque chose d'important à traiter, c'est vers moi qu'ils viennent. Et quand j'ai envie de me confier à eux ou d'avoir leur avis, c'est eux que j'appelle. Je ne vais pas particulièrement vers des gens de sociétés particulières. C'est vrai que c'est plutôt les GEM qui me reçoivent. Il se trouve aussi que je vais à l'extérieur simplement par rapport à des associations sportives ou des choses où on ne me demande pas, à la limite, si je suis handicapée ou si je suis pas. Ça fait partie de ce qui est naturel, en fait.
Et l'expérience du rejet ne se renouvelle pas ?
Bah, c'est-à-dire le rejet, c'est comme si j'avais une particularité, un handicap physique et qu'on me regardait de travers. Quand je dis effectivement que je suis handicapée psychique, il arrive qu'effectivement quelqu'un l'entende et me rejette sans savoir pourquoi. Je ne vais pas aller, je vous disais tout à l'heure, le harceler parce que je sens bien qu'il n'a pas du tout envie d'en entendre parler. Je ne vais effectivement que vers des gens qui ont cette curiosité d'apprendre autre chose que ce qu'ils connaissent eux-mêmes. Et le sujet se porte sur cette réalité-là.
Est-ce qu'il arrive que le fait d'en parler puisse prémunir du rejet ?
C'est-à-dire qu'à partir du moment où je dis « je suis handicapée psychique », c'est pas compliqué, je suis moi. Je suis entièrement moi. Donc si vous voulez pas me prendre entière, et si vous voulez enlever une portion de ma personnalité, c'est que vous m'aimez pas. C'est que vous ne m'aimez pas entière. Moi, je me présente entière, acceptez-moi comme je suis, ou bien changez de chemin.
Et est-ce qu'il arrive que les gens cessent d'être dans le rejet ?
Oui, tout à fait.
Ouais.
Tout à fait.
Parce que les mots pourraient avoir cet effet-là.
Oui, parce qu'ils comprennent bien qu'effectivement, ce n'est pas le fait d'avoir mis les pieds dans le monde psychiatrique au cours d'une partie d'une existence qui va aller changer la vraie personnalité que j'avais avant, par exemple. Ils sont amenés à comprendre que le personnage que je suis arrive avec une béquille, en fait. Je suis passée par un monde difficile qui m'a donné cette béquille, mais à côté de ça, j'ai ma personnalité qu'ils sont amenés à apprécier parce que ça leur plaît, et ils m'acceptent avec la béquille.
Qu'on a des nouveaux adhérents à Micro-Sillon, on va devoir faire la course aux minutes.
Sion. Sion.
Arrêtez donc la compétition.
Sion.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent.
Bonjour, donc me voici à la suite d'une performance qui a eu dans la cour de l'Essave dans le cadre du Fifi Gros, le festival Grosland à Toulouse, avec la performeuse. Donc je vais la laisser se présenter, qui a une belle poche publicitaire sur elle.
Oui, bonjour. Alors je viens de présenter une performance qui s'appelle Portrait d'un air dancer de Henri Michaud à Two Unlimited. Donc peut-être pour commencer, je ne sais pas si les gens voient ce que c'est un air dancer. Donc un air dancer, c'est une structure gonflable, souvent utilisée dans la publicité, des espèces de dôme-tubes en tissu avec un ventilateur en dessous et donc qui s'agitent au gré du vent. Donc c'est pour la définition du air dancer. Ensuite, du coup, l'idée c'était de mettre sur le même plan une section du recueil de poèmes La vie dans les plis d'Henri Michaud, c'est-à-dire portrait de Meidosem. Donc les portraits de Meidosem. Donc les Meidosem sont des sortes d'êtres filandreux qui n'ont pas vraiment d'identité fixe. Et donc l'idée était de mettre en lien quelque chose de très introspectif en contraste avec le côté très dance de l'Eurodance Too Unlimited, no, there's no limit. Et donc en fait je travaille en m'imposant des contrastes assez forts de base pour que ça crée une sorte de choc et un malaise. Donc voilà un peu.
Vous jouez avec la publicité, que pouvez-vous nous dire sur ça? Parce que le texte, moi ça me parlait pas, mais ce qui m'intéressait c'était la publicité, le côté... dérision de la chose. Enfin, le texte, moi, je ne connaissais pas, donc voilà, j'étais pas porté par la chose. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté comme l'église de la très sainte consommation, où ils ont fait un spectacle dans le cadre du Grosland. Voilà, c'est ça qui me plaisait.
Mais en fait, c'est que je voulais justement donner une introspection à la baudruche publicitaire. Donc en fait, c'est comme si c'était humaniser le air dancer publicitaire pour lui donner des émotions, et puis finalement il a l'impression qu'il sert à rien au final, et plus rendre ce désarroi intérieur.
Le visuel que vous avez sur le programme avec une casquette et une hélice, c'est un autre spectacle ou c'est issu
Ah non, c'est vraiment une photo qui a été faite exprès pour... Après, je voulais pas être trop... c'est pas toujours totalement raccord. Je voulais vraiment... D'ailleurs, c'est un spectacle que je voulais tourner que dans des parkings et dans des zones commerciales. Mais en fait, c'est ce que j'aime bien, justement, c'est dire de la poésie dans un parking de centre commercial au milieu des poubelles. Ça, j'aime bien.
D'accord. Ouais, je m'attendais plus à ça. Enfin, le visuel me donnait une autre image de ce que j'ai pu voir. Mais peut-être pour les autres spectateurs, c'était différent ou pareil que moi, je sais pas.
Ah bah écoutez, ouais, je veux pas vous dire.
Demander. D'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez rajouter par rapport à vos performances que vous faites en général? Ça tourne toujours autour de ça ou c'est différent?
Alors, non, pas du tout. Alors là, c'était vraiment une lubie spécifique. Donc, c'était aussi pour répondre à une commande par rapport au rien. En général, j'avais déjà fait des performances, par exemple, pour Groland. L'an dernier, j'ai fait un mini-golf humain bavarois. Donc, le ton était complètement différent.
J'ai pas eu l'occasion de le voir, dommage. Ça avait l'air sympa.
Et sinon, en fait, mon travail est beaucoup axé sur les lectures contraintes ou la contorsion, mais après, j'ai différents types de projets.
Des dates à annoncer, peut-être, à partir du mois d'octobre ou novembre, parce que nous, on fait des émissions mensuelles.
Alors, les prochaines dates, alors au Château H, donc je suis aussi la propriétaire du Château H, donc c'est une fabrique artistique underground à Saint-Julia, près de Revel. Et là, en fait, ce sera une soirée Jalo. Donc un thème qui n'a rien à voir aussi.
Jalo, pour ceux qui ne connaîtraient pas.
C'est un type de film, on va dire, italien des années 70. Un exemple, ce serait Dario Argento, Mario Bava.
Et à part ça, donc ça sera à quel moment?
Alors, j'ai pas mon agenda avec moi, j'ai pas les dates en tête.
Et d'autres, sinon, performances, spectacles, choses que vous avez prévu de faire? Peut-être un site internet aussi à annoncer?
Non, pas pour l'instant. Enfin, j'ai pas les dates en tête, en fait, du coup.
D'accord. Donc, une page Facebook où on peut vous suivre?
Oui, alors, sur la page de Château H ou sur ma page Facebook Elena Patricio.
D'accord. Mais merci de votre participation et bonne continuation. Au revoir. Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial, voilà, reportage 31.
Vincent,
de micro-sillon.
Non, merci.
Non? Non. Pourquoi?
Vous êtes vous, quoi?
Vous trouvez chaque mois l'émission de radio. Vous trouvez chaque mois l'émission de radio. Vous trouvez chaque mois l'émission de radio.
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais les autres ont aussi Néophile Moé. Épisode Zogameux, perte d'une moralité universelle. À l'épisode précédent, j'ai parlé que quand on a trop de trucs dans la tête, on a du mal à défragmenter, on devient fou. Épisode de fin de chapitre, pas de blague dedans. Nos grands-grands-parents ont appris la morale de leur famille et de leur religion qui leur a imposé leur sacré. Lors de la génération de nos pères, ces derniers, en jeunes enfants, ont eu beaucoup plus de choix. Ils ont eu le choix de choisir leur religion, leur sacré, leur moralité, ou pas. Ces derniers ont souvent connu de la philosophie que des traces de réflexion dans leur expérience de vie remplie de travail et une année de théorie incompréhensible pour beaucoup, pour les plus chanceux. Ils n'ont donc pas eu raison d'opérer à un tel choix et ont pu rentrer dans la vie d'adulte sans religion, sans sacré, ni moralité. De nos jours, ce changement radical dans la conscience collective de l'humanité porte désormais ses fruits, principalement un progrès extraordinaire de toutes les sciences, dont les laboratoires n'ont que faire des questions éthiques, exemple facile, la pression en faveur de la culture des OGM, un délitement extrême du tissu social et familial, facilitant énormément l'abandon avant la vie active et l'exclusion durant et après la vie active. Une progression très visible de la méchanceté gratuite à tout niveau social. Des courants éthiques extrêmement différents, dont des gens qui prônent la transparence tout en mentant par omission et en changeant des définitions de mots. Une large partie de la population se dévouant à l'altruisme désintéressé et de la solidarité vivant aux côtés, coopérant et servant des individualistes solipsistes n'ayant aucun respect de la vie, un délitement de la réalité à un niveau horizontal où des classes sociales équivalentes sont scindées par des barrières opaques et invisibles, la réalité diminuée au profit des potentats, un total irrespect des ancêtres et surtout des morts, des gens arrivant à se plaindre de ces derniers et à oser leur demander des comptes. Alors que la religion a quitté les pensées des gens, ces derniers ont perdu leurs limites. Cette accélération du progrès a certes eu donc bons résultats, elle a libéré les pensées des gens dans un vide où tout peut se passer, un vide où les réflexions se portent sur soi et où, dans cet espace expansé, l'ego et la soif de liberté prennent le pas sur autrui et son respect.
la religion a imposé la morale par le respect du sacré, une limite à la science. Maintenant que cette limite n'existe plus, on comprend désormais pourquoi elle a été mise en place par les vieux sages depuis 2-3 millénaires. Autrefois, violer le sacré était une faute inexcusable, et le sacré était un, entre guillemets, point faible de l'homme en général. Sans sacré, plus de point faible ni de nécessité de respect. L'homme n'a plus rien pour le ralentir et l'amener à réfléchir et douter de sa propre voie en la comparant à celle des saints et des ancêtres. Pire, il n'a plus rien à comparer sinon son voisin. On a donc une importance extrême à porter à plaire à autrui pour le séduire et en faire son modèle. Et inversement, faire de soi le modèle d'autrui, permettant à des gens payés pour séduire de lancer des modes et manipuler les pensées des individus par leurs amis, processus de manipulation facilité par les nouveaux réseaux sociaux. Devenir le sacré de gens plus naïfs et moins aptes à choisir leur sacré afin de manipuler ces derniers en masse est devenu un passe-temps pour les politicards et les caïds en tout genre. Les faux dieux peuvent désormais se faire adorer comme les égrégores antiques et leur pouvoir en est démultiplié. C'est pas nouveau, autrefois les pharaons, les rois et les empereurs gouvernaient de droit divin. Mais désormais, n'importe quel baratineur pouvant se payer un costard, assez futé pour mesurer son intelligence et son charisme aux autres, et doté d'assez de cran pour faire fi de ses propres scrupules, peut accéder aux mêmes privilèges. L'irrespect des ancêtres et les progrès de la manipulation permettent aux personnes au pouvoir de gouverner de manière irresponsable, inacceptable et inexcusable selon les valeurs de la génération précédente. La démocratie n'est plus simplement exploitable, elle est devenue d'une obsolescence insensée et l'outil de la domination. Tout passe ! Désormais, des CRS peuvent tirer des grenades offensives, pas des lacrymos, je parle bien sûr d'explosifs, sur des gens sans risquer d'être inculpés pour les homicides qu'ils pourraient commettre, et l'éducation nationale peut devenir le vecteur d'un message de haine envers les enfants et les étrangers, sans aucune révolte de la part des enseignants. Si le gouvernement avait tenté la même chose en 1995 qu'en 2015, le pays aurait connu une révolution d'une rapidité insensée, instillée par nos parents outrés. Sans même une base de moralité unifiée et apprise partout, il n'y a plus de limite à la liberté de manipulation politique. La politique des inconcernés est à la portée du premier lobbyiste venu, et il y a de moins en moins d'individus face aux hordes de CRS affamés. Il y a donc, depuis déjà pas mal de temps, une nécessité impérative de créer un nouveau sacré pour imposer de nouvelles limites et de nouveaux temps de réflexion afin que l'on contraigne à porter les puces sous-cutanées pour accéder à nos comptes bancaires à la merci d'un empereur président pouvant les désactiver à la moindre suspicion de lutte sociale. La barque de la bête était une prodigieuse allégorie qui, hélas, pourrait bien se jeter à l'intérieur de nos bras. À propos de se jeter dans les bras de quelqu'un, le mois prochain, on commence le chapitre sur les femmes.
L'émission est terminée. Au revoir. On se retrouve.
Rendez-vous le mois prochain.
Oh non.